Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Chez Insider, le point de départ de nos podcasts, c'est l'envie de raconter des histoires qui passent sous les radars de l'actualité. Dans cette série, on a décidé de donner la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France.
Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. Elles ont été incarcérées pour des faits criminels, comme pour des petits délits, dans différentes régions et différents types de prisons. Elles nous ont raconté leur quotidien derrière les murs, du jour de leur admission à leur libération.
Je m'appelle Bianca, j'ai 39 ans. J'ai été incarcérée en 2016 pour une peine de trafic de stupéfiants international après avoir tapé 50 cavales.
Détenue, Bianca, épisode 1.
Je commence le trafic de stup à 29 ans. Avec un gars que je connaissais qui s'appelait Lucas. C'était en 2009. Et il savait que moi j'avais des connaissances au Brésil et que je parlais aussi le portugais. Donc il m'a demandé de le mettre en contact avec des gens de là-haut afin de pouvoir lui trouver du produit, de la cocaïne. Après ça va très vite. Je me retrouve à faire toute la partie logistique au Brésil. Je négociais avec les trafiquants. Je m'occupais de la réception du produit, de son paiement et de la gestion des mules pour le transport. Les trafiquants m'aimaient bien, parce que je pense parce que j'étais sérieuse et je leur inspirais confiance. Et j'avais aussi compris leur état d'esprit. Parce que les Brésiliens, comment ils pensent, c'est pas comme les Français. La manière de fonctionner n'est pas la même, que ce soit dans les affaires ou dans la vie de tous les jours. Et en fait, eux, pour mieux faire affaire avec eux, faut aussi comprendre, on va dire, leur état d'esprit. Faut pas être là en mode français. Parce que des Français, on est très speed. Et eux, c'est cool up. Si tu les presses, ils vont mettre encore plus de temps. Si quand on venait pour discuter, bah à la fin, on finissait au restaurant. C'était cool, quoi. Je pense que je les attirais aussi. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu ce côté-là. Je pense que c'était un atout d'être une femme. Dans ce rôle, bah, je me sentais bien. Je me sentais puissante, comme la Rainha do Sul. C'était elle qui contrôlait tout le trafic du côté de la Méditerranée, en Europe. Dans une série, en fait. Elle gérait tout, niveau statistique, tout ça, logistique. Elle avait des idées vraiment. Elle arrivait à faire des trucs extraordinaires. Elle arrivait même à leurrer les keufs. Ouais, elle était forte. J'étais au top. Une équipe de mecs qui me faisait confiance. En France, de l'autre côté, au Brésil, je gérais bien les choses. Donc forcément, c'est un autre monde, c'est un autre degré. Donc ouais. Tu te sens poderosa. Ça dure environ un an. Après, moi, le but de tout ça, c'était juste de mettre des sous de côté pour ouvrir ma propre entreprise. Parce qu'avant, j'avais déjà travaillé. C'est pas comme si j'avais jamais travaillé, j'ai fait que ça. Avant, j'avais déjà eu des emplois, tout ça. Et j'ai vu le côté de travailler pour les gens, comment on te parle, comment on te traite. Tu dois prendre sur toi. Si tu t'embrouilles avec ton patron, bah après c'est déjà que tu vas perdre ton poste. Donc c'est beaucoup courber les chines en fait. Et à un moment donné, t'en as marre en fait. Et là un peu à ce moment-là, j'étais un peu dans ma phase vida loca et je voulais mon truc à moi. Je mets les valeurs que je veux, je fais mes trucs comme moi j'en ai envie, je gère mes trucs comme moi je le veux. C'était pas, je comptais pas faire ça éternellement, en fait. Et à un moment donné, après, ça devenait trop dangereux. Faut toujours savoir s'arrêter. Faut pas être trop gourmand. J'étais pas là non plus à claquer des sommes phénoménales dans des vêtements, c'était pas le but. J'aime bien m'habiller, mais être trop voyante non plus, j'aime pas. Parce que c'est pas des chaussures Chanel que tu vas acheter, qui après vont t'aider à aller dans tes projets, en fait. Après, tu rates beaucoup de choses aussi. Les fêtes de famille, tout ça, c'est... Faut oublier, c'est à gauche. Donc, c'est pas évident, mine de rien. Et tu t'écartes un peu tout le monde. Parce que t'es dans un monde un peu à part entière. Tu peux pas trop expliquer non plus ce que tu fais. Ni à mes amis. Des fois, il y avait mes amis, ça les énervait. On devait voyager, on devait faire des choses. Et bah, c'était pas possible de les faire. Parce que j'avais des autres priorités, en fait. Et moi, l'opinion des gens, c'était pas mon problème. En 2010, on a envoyé la dernière mule. Enfin, on savait pas encore c'est la dernière. Et donc, elle s'est fait attraper à l'aéroport au Brésil. Quand j'ai vu que j'avais plus de nouvelles de personne, je trouvais ça bizarre. Parce qu'on était tout le temps en contact. Quand je dis tout le temps, parce que toutes les heures ou toutes les 2 heures, j'ai passé quelques appels. J'ai appelé le baveu d'un des mecs de mon équipe. Et de là, il m'a expliqué que tout le monde s'était fait attraper. Et que moi, il y avait un mandat d'arrêt international contre moi. Ils ont fait vraiment un gros truc. Ils ont attrapé toute mon équipe en France. Chaque personne chez eux. Tous en même temps. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, moi, quelques jours après, j'avais mon avion pour rentrer en France. Quand j'ai su que tout le monde s'était fait arrêter, tout ça, qu'ils avaient beaucoup de preuves contre nous, ça parlait d'une peine à 2 chiffres. Et mon doute aussi, c'était si on allait m'arrêter à l'aéroport au Brésil ou en France. C'était ça ma peur aussi. Parce que je voulais pas aller en prison au Brésil. Parce que la prison du Brésil, c'est pas la prison de la France. Et c'est vraiment dur. Donc là, j'ai encore plus hésité. C'était où je me rendais, où je restais là-bas. Je savais pas. L'hésitation est plus totale. Tout le monde me disait de rentrer. Rentre. Mais je me disais, les gens, ils sont bien marrants. Ils me disent rentre. C'est pas eux qui vont aller à l'intérieur. C'est bien beau tout ça. Et je ne voyais pas aller à l'intérieur. Donc j'ai beaucoup hésité et après j'ai préféré rester là-bas. Donc c'est là qu'a commencé ma cavale. La cavale, ça change tout. Hein. Tu dois te couper de ta famille, de tes amis. J'appelais très rarement. Changer de téléphone tout le temps. Je sortais pas beaucoup. Au début, je changeais beaucoup de lieu, de là où j'habitais. Bon, après, à un moment donné, quand t'as déjà fait tous les hôtels, les hôtels miteux, il n'en reste plus beaucoup. Donc après, je m'étais trouvé un endroit où rester. J'avais fait des pièges chez moi, au cas où les keufs, ils devaient arriver. Je prenais jamais des appartements qui étaient hauts. Toujours rez-de-chaussée, premier, ou les sous-sols, les bas rez-de-chaussée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour pouvoir m'échapper. Toujours un sac qui était prêt pour pouvoir partir. J'ai fait Rio et après São Paulo. Parce que au début, il y avait l'histoire des papiers. J'avais peur qu'on m'arrête et qu'on me demande mes papiers. Comme je savais pas la police civile, comment ça allait se passer, tout ça. Après, une fois, quand j'ai eu un contrôle, j'ai vu c'est passé. Après, on m'a expliqué un petit peu comment c'était la police civile. Donc après, j'ai compris qu'à l'intérieur du Brésil, il n'y aurait pas de problème. Ça allait être seulement si j'allais quitter le pays, en fait. Donc là, d'un côté, ça m'a un peu plus tranquillisé, on va dire. Parce que les premières années, c'était vraiment difficile, les premières années. Psychologiquement, c'est fatigant. Dire un autre nom qui n'est pas le tien. Après, carrément, l'autre nom, ça devient vraiment ton nom. Quand tu t'appelles par ton prénom, t'as du mal à répondre. Parce qu'en fait, tu l'oubliais, ton prénom. C'est comme s'il y avait des parties de ta vie que t'occultais. Donc ça, c'est pas évident et c'est fatigant. Et même si j'étais plus tranquille, à ce moment-là, au niveau de la police, tout ça, mais bon, t'es pas chez toi. Même si j'aimais bien, je m'étais intégré, il n'y avait pas de soucis. Mais voilà, la France reste la France. Hein. Et ma famille aussi, elle me manquait. Ma mère, elle a commencé à prendre de l'âge, tout ça. Donc, ouais, c'était pas évident. Donc là, vraiment, ouais, j'étais fatigué. Ça dure 5 ans, ouais. Tout a basculé le jour où j'apprends que je suis malade. En fait, avec mon copain de l'époque, Antonio, j'essayais de faire un enfant. Et en fait, on trouvait ça bizarre, en fait, que je tombais pas enceinte, tout ça, pourtant on se protégeait pas. Et donc j'ai fait des examens, et de là, bah, ils ont décelé un cancer de l'utérus. Et ça qui a précipité vraiment le fait que je rentre, quoi. C'est Antonio qui a beaucoup insisté. Aussi, moi, malgré tout, moi, j'étais quand même dans le doute. Hein. J'avais peur, en fait. Et parce que je savais pas, justement, si le mandat était toujours là, si, comme dans les films, quand on voit la photo de la personne, ça sonne rouge, recherché. Donc, j'avais cette peur. Je suis rentré en France en juillet 2015. J'ai passé les douanes. Il n'y a eu aucun souci. On ne m'a pas arrêté ni au Brésil ni en France. On ne m'a pas arrêté, mais bon, le but, c'était que je me rende. Je suis allé au commissariat des Champs-Élysées avec mon avocat. Et de là, bah, on leur a expliqué qu'il y avait un mandat d'arrêt contre moi et que je me rendais. Donc, ils ont cherché. Ils ont cherché, ils ne me trouvaient pas. Donc là, je dis à mon avocat, bah, viens, on s'en va, on part. Après, il me regarde, il dit, arrête. Et on finit ce qu'on a commencé. Donc, ça a peut-être mis une heure avant qu'ils trouvent. Et effectivement, quand ils ont vu ma fiche et m'ont vu moi, ils étaient choqués, en fait. Et bah ça y est, hein, les menottes. J'ai regretté pourquoi? Parce qu'en fait, ça voulait dire que j'aurais pu marcher dans Paris normal, tranquillement, en fait. Et d'un côté, j'ai pas regretté. Parce que d'un autre côté, il y a un poids qui s'enlève de tes épaules. Parce que tu dis, ouf, c'est bon, ça y est. C'est fini. Enfin, c'est fini. C'est le début de la fin, quoi, on va dire. Parce que c'était pas encore vraiment fini. C'était l'autre partie qui commençait.
Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert, Eva Goron et Émilie Denêtre. Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet insider-podcast.com. Arnaud Denzler a composé la musique originale. Il a aussi réalisé et mixé cet épisode. Justine Coubarmillot a illustré le podcast. Maëlle Boucheron et Malika Méguez ont assuré la communication du projet sur les réseaux sociaux.
Détenue est une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Retrouvez un nouveau témoignage dans 2 semaines.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.